l'histoire.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique historique. Lucie Reitingerova est étudiante à Olomouc et elle prépare à l'heure actuelle une thèse sur l'émigration tchécoslovaque en France de 1968 à 1989. Un travail qui est en réalité la suite de son travail de master où elle s'est intéressée à cette même émigration juste après le coup de Prague de 1948 à 1968. Elle a parlé pour Radio Prague de ce sujet et elle nous a expliqué comment elle était venue à s'y intéresser. On écoute Lucie Reitingerova.
Déjà au lycée, je me suis intéressée aux relations franco-tchécoslovaques. Après, j'ai décidé d'aller étudier le français et l'histoire. Et quand j'ai fait mon travail de licence, j'ai par hasard rencontré M. Fauchet. Qui m'a parlé de son père, de lui-même, de l'amitié franco-tchécoslovaque. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens très intéressants, qu'il y a un exil tchèque ou tchécoslovaque qui vit en France et que je ne connais pas du tout. Donc je me suis décidée de s'intéresser à cette problématique. Voilà.
Pour parler un petit peu de cette première vague, finalement, parce qu'on peut dire que c'est une première vague entre 48 et 68. Est-ce que vous pourriez un petit peu faire une typologie des personnes qui émigrent? C'est qui? C'est les hommes politiques? C'est les artistes? Et dans quelles conditions, en général, émigrent-ils? Est-ce que vous pourriez citer quelques personnes, un peu des personnes phares de cette première vague? Et puis également me dire si, en fait, ce sont des personnes qui sont liées, par exemple, à des partis politiques, en particulier tchèques.
En 1948, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont émigrées. Et il y avait une situation en Europe très difficile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émigrés, des gens sans la nationalité. Et en général, l'exil tchécoslovaque a voulu partir aux États-Unis, mais il y avait des visas où il faudrait avoir le visa, mais c'était très difficile de les gagner. La plupart des migrations est partie en Europe, en France, en Allemagne, où il y avait des camps réfugiés, mais l'immigration n'a pas voulu rester en Allemagne. Tout le monde a voulu d'aller aux États-Unis. Et la France, la Grande-Bretagne, c'était peut-être le compromis pour eux. Donc en France, il y avait un exil très fort, ou une immigration très forte, en 48-49, au début des années 50. Mais après, la plupart de ces gens sont partis aux États-Unis.
Donc en fait, la France était une sorte de, finalement, d'arrêt temporaire sur la route des États-Unis.
Oui, c'est ça. Juste un peu de gens ont resté en France. Et c'était peut-être aussi les raisons personnelles pour qu'ils se sont décidés de rester là-bas. Parce que c'était, par exemple, le jeune homme qui s'est marié avec une Française. Donc ils sont décidés de rester en France. Ou bien ils ont gagné un travail très intéressant, donc ils se sont dit pourquoi commencer de nouveau aux États-Unis quand si j'ai le travail en France. Donc si quelqu'un a resté en France, c'était soit des raisons personnelles ou des raisons professionnelles, soit qu'ils ont un lieu très proche, c'était le cas de Hubert Tripka.
Qui faisait partie du gouvernement tchécoslovaque avant le coup de Prague, en fait.
Oui, oui. Sa femme était une Française, donc c'était, pour eux, c'était une certitude de rester en France. Mais c'est vrai que Hubert Tripka a beaucoup voyagé.
Ces personnes qui s'installent, donc, dont vous dites qu'ils restent souvent pour des raisons personnelles, est-ce que c'est des personnes qui se côtoient? Est-ce que finalement ils forment une communauté soudée, homogène? Est-ce qu'ils se rencontrent? Et s'ils se rencontrent, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontres privilégiés dans la mesure où ils sont dans la même ville? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous à Paris, je sais pas.
Je dirais que un point commun pour eux, c'était Paris, que la plupart d'eux ont resté à Paris. Il y avait aussi les autres lieux, mais la plupart des émigrés ont resté à Paris. Au début, dans les années 50, les gens ont encore cru qu'il y aurait de revenir bientôt en Tchécoslovaquie. Donc, ils se sont organisés politiquement. Il y avait des partis politiques, la démocratie sociale, les chrétiens. En fait, presque tous les partis qui ont existé en Tchécoslovaquie avant la coup. Mais il y avait le Conseil de la Tchécoslovaquie libre. Le siège de la Tchécoslovaquie libre était aux États-Unis, mais il y avait aussi le siège parisien. Ils se sont organisés, ils ont essayé de faire quelque chose pour libérer la Tchécoslovaquie, mais à la fin des années 50, en fait, le point très important était l'insurrection de Hongrie.
En 1956.
Oui, en 1956, quand le monde n'a pas réagi. Donc, je dirais qu'on peut voir un peu un certain type de résignation. Jusqu'à 1956, le mouvement politique était très fort, mais puis ça, c'est pas si fort après 1956. Et je dirais qu'après, l'exil tchécoslovaque à Paris, c'est un exil des individualités très fortes qui se sont essayées de faire quelque chose, mais pas
de manière organisée, en fait. C'est des individus qui, tout seuls, en fait, font un travail, finalement, de résistance, entre guillemets, mais de manière très individuelle.
Oui, comme ça, parce qu'il y avait les groupes en 1960, pas intégrés par...
Il est revenu des États-Unis, déjà, pour fonder Svedeztvi à Paris.
À Paris, donc, il y avait le groupe de Svedeztvi. Il y avait l'autre groupe de la mission catholique qui était aussi très fort, qui a essayé d'aider. Puis il y avait par exemple M. Vrzala qui a travaillé dans les structures européennes. Il était très actif dans les structures des chrétiens européennes. Et donc il a voulu que la Tchécoslovaquie reste dans l'Europe, que l'Europe n'oublie pas la Tchécoslovaquie. Puis il y avait un mouvement ouvrier qui était aussi très fort. C'était par exemple Paul Barton qui a travaillé dans les forces ouvrières. Il a essayé de relever les fautes du communisme et de montrer que c'est pas ce qu'on pense.
Donc il y avait quand même une opposition de gauche, quoi, finalement,
oui.
En fait, au régime communiste, mais en exil, de nouveau.
Oui, en exil, de nouveau, oui. Oui, puis il y avait le groupe de monsieur et madame Dubénové, qui ont aussi... C'était la même chose pour madame et monsieur Fischera. Donc il y avait plutôt des groupes qui ont essayé de faire quelque chose d'après la manière qu'ils ont pensé que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais pas un
mouvement commun, quoi.
Oui, mais ils ont coopéré, ça. Ils ont coopéré, mais il n'y avait pas une seule organisation qui a travaillé systématiquement pour faire quelque chose.
D'accord. Comment ces personnes qui arrivent en France sont-elles accueillies par les Français, en fait, déjà tout simplement par l'administration française, tout bêtement?
Donc, ça dépend parce que chacun a ses propres expériences. Mais il me semble que en 48, l'atmosphère en France n'était pas favorable pour les exilés, pour les émigrés. Je dirais que
le parti communiste déjà français était très fort.
Oui,
peut-être
oui.
Que ça n'aidait pas forcément à l'accueil de personnes qui fuyaient un régime communiste.
Oui, c'est ça, parce que comme vous disiez, il y avait un très fort mouvement communiste. Et les gens qui ont cru cette communiste, ils ont dit mais vous avez un paradis sur terre, pourquoi vous avez quitté? Peut-être vous étiez les fascistes, ou pourquoi vous avez quitté la Tchécoslovaquie, c'est bizarre. Soit ça, ou bien il faut toujours penser que c'était l'Europe après-guerre, il y avait une pauvreté, parce que la France était
Était détruite finalement.
Oui, oui, détruite. Donc, il y a, c'était très difficile de vivre. Donc, il y avait les Français, on était pauvres, et donc il n'y avait pas la place encore pour les émigrés qui sont qui ont faim, qui ont voulu manger aussi parce que c'était difficile.